Apporter aujourd'hui, c'est en fait c'est un message que j'avais déjà à cœur, mais que le Saint-Esprit m'a demandé d'attendre. C'est pour ça que la dernière fois je vous ai apporté sur la prière. Et avec le temps, j'ai compris pourquoi le Seigneur fait patienter. Le thème de ce message, c'est mon identité dans l'intégrité, ou l'intégrité dans mon identité. Mettez-le dans le sens qui vous arrange. Mon identité dans l'intégrité, l'intégrité dans mon identité, en Christ, bien évidemment. Et en introduction, je me suis amusé un peu à dire, tiens, mais en fait, c'est quoi notre identité? Alors, j'ai commencé par l'identité, tout simplement, celle que nous avons chacun. Alors, comme j'essaye toujours, plus ou moins avec succès, je vais essayer de vous faire participer au message. Et déjà sur une carte d'identité, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez déjà regardé ce qui a marqué sur votre carte d'identité? Le nom et le prénom. Voilà, déjà la base. Mais vu que tu es une dame, il y a ton nom de jeune fille. Ton origine, du coup. De qui tu es. Ah, il y a quoi d'autre? Allez, Corinne a répondu. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Michel. L'adresse. Où est-ce que tu résides? Amen. Allez. La taille. Effectivement, il y a la taille sur votre pièce d'identité. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben non, il n'y a plus la couleur des yeux. Eh oui, j'étais très étonné. Il y a des choses qu'il y avait avant qu'il n'y a pas. Regardez, un petit truc rigolo. Avant, il y avait le poids. Donc, on pouvait dire si une fille était une oulala ou une oh là là. Ça n'existe plus. On ne l'a plus mis. Il n'y a plus ni la couleur des yeux, ni le poids. Mais qu'y a-t-il d'autre? La date de naissance. Amen. Quand est-ce que tu es né? Et. Qu'est-ce qui va avec? Le lieu de naissance. Donc, ça nous dit notre nom, notre prénom, notre âge, où est-ce que nous sommes nés et à quelle date. Et quoi d'autre? Une photo. Alors maintenant, la photo, vous avez vu, c'est sans lunettes, faut plus sourire. On est tous des prisonniers sur une carte d'identité. Non, c'est le seul moment où tu as le droit d'enlever le masque, en fait. Non, non, voilà. Donc ça. Alors une chose, il y a le sexe. Parce que malgré les noms, il est bien marqué le sexe. Si nous sommes un garçon ou une fille. Donc notre origine de naissance, on l'a dit. Donc notre taille, notre adresse. Allez, la photo. Et quoi d'autre? Parce que là pour l'instant c'était facile. Allez, qu'y a-t-il? Bah, pas toujours les mêmes. Allez. Les enfants, qu'est-ce qu'il y a sur une pièce d'identité? Tu le sais ou pas? Tu sais pas? Oui, Moïse. La nationalité, effectivement. Et quoi d'autre? T'en fais un, mine de rien, sur un petit bout de papier, des informations. Allez, il en reste des choses. Alléluia. Oui, qui est-ce qui l'a délivré, ce document? Amen. Allez, il en reste encore. Oui, Manuela? Oui, tu as un numéro qui t'est attribué, effectivement. Maëlle, qu'est-ce que tu veux dire? La signature. Il y a ta signature. Mine de rien, ça en fait des choses, hein, sur juste un petit bout de papier. Et effectivement, il y a des choses qui n'y sont pas. Ou qui y étaient, mais qui n'y sont plus, effectivement, que ce soit la couleur des yeux, ça a été dit. Mais il y a une autre chose qui ne nous est pas marquée sur notre pièce d'identité, et pourtant, notre caractère. Sommes-nous doux, agressifs, lents à la colère, impulsifs? Et souvent, il y a des gens qui sont des spécialistes en la matière qui vont vous dire, ah, oh, soutien de ta grand-mère. Tu as les yeux de ton père. Oh, il a la bouche de sa mère. Notre caractère, à qui est-ce que nous ressemblons? Alors vous doutez bien que tout cela, c'est pour dire quoi? On a vu qui on est finalement. Mais c'est en fonction du pays aussi d'où on vient que notre caractère et nos règles ont été étiquetées par rapport à comment notre père et notre mère nous a éduqués, par rapport à ce qu'ils ont pensé être juste ou pas. Mais une carte d'identité nous donne quoi, mes frères et sœurs? Le fait est d'exister et d'avoir des droits. Si j'ai une carte française, j'ai des droits qui vont avec la loi française. Et ça, on aime bien. On aime bien. Entre autres, en France, on a la liberté d'expression, qui est très décriée en plus en ce moment. Nous sommes libres de pouvoir passer la porte avec notre Bible sous le bras, de rencontrer un musulman, de discuter avec lui, ou un bouddhiste, ou un vishnou, ou que sais-je. Nous sommes libres. Ce n'est pas donné à tous, mes frères et sœurs. Et ça, on aime bien, la liberté de culte. Nous aimons beaucoup notre carte de sécurité sociale qui nous rembourse quand nous allons voir les médecins. Allez dans d'autres pays, t'as pas de sous, t'es pas malade. Pas compliqué. On aime bien ça quand même. C'est bien pratique. Ce sont des droits français qui cassent beaucoup les pieds actuellement, je peux vous dire, avec la pandémie. J'en ai discuté avec quelqu'un qui travaille à Disneyland. Ça leur casse bien les pieds. Parce que ça appartient à des droits français, de sociétés américaines qui aimeraient bien se débarrasser des gens, ça leur coûterait moins cher. Mais les lois françaises disent que non, non, tu n'as pas le droit de virer les gens comme ça. Nous avons des lois pour nous protéger. Et on les aime bien parce que nous avons quoi? Cette carte française qui nous dit « Eh oh !» Notre frère qui siège au Prud'homme pourrait très bien le dire. Il y a des lois et on renvoie pas les gens comme ça. Nous avons des droits. Alléluia! Mais il y a aussi, ça on aime un peu moins, les devoirs. Les devoirs, c'est quoi? C'est quand on rentre à la maison qu'il faut faire les lignes d'écriture? Les maths? Ouais. Ça, c'est tes devoirs à toi. Mais qu'est-ce qui sont les devoirs pour ta maman? De l'écriture. D'accord? Et oui, ce sont ses devoirs. Alors, le devoir, c'est d'obéir à sa maman. Et sa maman, ta maman, doit obéir aux lois du pays. Eh oui, c'est à tous les échelons. Comme maman dit de ranger la chambre, ou papa, on doit lui obéir. Ah, ça plaît un peu moins là d'un seul coup, là. On aime moins ça, Et nous, les lois du pays nous disent de quoi? Allez, je vous donne deux exemples. Respecter le code de la route. Les 30 km/h, les stops, les ronds-points avec les clignotants que personne ne sait utiliser, les limitations de vitesse, et que sais-je encore. Allez, un autre exemple qui nous gratte un peu, c'est quoi? Les recommandations sanitaires. Qui n'a pas décrié les recommandations sanitaires, mes frères et sœurs? Le port du masque, de se mettre du gel. Maintenant, il faut qu'on soit à la maison quand il fait bon le soir et qu'on a envie de se balader. D'obéir. Ce sont les droits et les devoirs que nous avons par rapport à notre identité et par rapport au pays où nous sommes. Vous allez dans d'autres pays, c'est bien pire. Vous allez dans d'autres pays, parce que j'ai pas mal de gens de l'aéroport qui viennent travailler chez moi, ceux qui ne sont pas français, on leur a imposé deux mois de congé sans solde. Et ta Christ, est-ce que vous connaissez votre identité? Alors, est-ce qu'il y en a qui prennent des notes? Levez la main, s'il vous plaît. Une personne, deux, trois. Je vais vous donner des versets que vous pourrez lire chez vous et je vais les reprendre, d'accord? Alors notez Jean 1, 12. Jean 1, 12. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. C'est bon, je ne vais pas trop vite? 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Ça va? Ça suit? C'est bon? Éphésiens 2, 19. Éphésiens 2, 19. Éphésiens 1, 5. Éphésiens 1, 5. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3. Et cette première partie, je la finirai avec 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. C'est bon? Vous avez eu le temps de noter? C'est bon? Martine, c'est bon pour toi? C'est bon? Ok. Alors on va commencer. Qu'est-ce que dit la parole dans Jean 1, 12? Je suis enfant de Dieu. Combien y a-t-il d'enfants de Dieu dans la salle? Levez la main. Ah. Donc, Jean 1, 12 dit, je suis enfant de... Amen. C'est la Bible qui le dit. Dans 1 Corinthiens 3, 7, je suis co-héritier de Christ. Je suis co-héritier de... Wow, c'est... Ouh, eh, on se réveille là. C'est votre identité, mes frères et sœurs. 1 Corinthiens 3, 7 dit que tu es co-héritier de Christ. Amen. Amen. Oui. 1 Corinthiens 5, 17 dit, je suis une nouvelle créature. Mon passé est pardonné. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ce sont des choses que vous pouvez proclamer sur votre vie. De dire, hey, je suis une nouvelle créature. Quand vous êtes accablé. Mes frères et sœurs, je suis une nouvelle créature. Toutes les choses passées ont été pardonnées. Amen. Éphésiens 2, 19 dit, je suis citoyen du ciel avec toute la famille de Dieu. La classe quand même, hein? Allez, on se la reprend. Je suis citoyen des cieux avec toute la famille de Dieu. Voilà ta position, voilà ton identité. Alors, je n'ai pas pris tous les versets parce que vous en doutez qu'il y en a beaucoup. Allez, on s'en refait un autre. Éphésiens 1, 5 dit, j'ai été choisi par Dieu. Donc, ce n'est pas une erreur. J'ai été choisi par Dieu, prédestiné pour être adopté comme son enfant. On se le reprend. J'ai été choisi par Dieu, mes frères et sœurs. Prédestiné pour être adopté, pour être son enfant. C'est énorme. C'est énorme. Et Éphésiens 1, 3 dit quoi? J'ai été béni de toute bénédiction spirituelle. Et on se leur dit, j'ai été béni de toute bénédiction spirituelle. Et on se leur dit, j'ai été béni de toute bénédiction spirituelle. C'est une réalité, la parole le dit, donc c'est la vérité. Amen. Amen. Et 1 Corinthiens 3, 16 dit quoi? Je suis le temple de Dieu. Comme ça, je rebondis un peu sur le message de mon frère. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Ah. Oh. Je suis quoi? Je suis le temple. Ah. Ah, je l'ai rempli de quoi le temple au fait? Nous avons des exemples dans la parole de Dieu de boucliers d'or qui avaient été volés, puis on les a remplacés par des boucliers d'airain qu'on avait polis pour faire semblant qu'ils étaient d'or. De quoi remplissons-nous ce temple, mes frères et sœurs? Vous êtes, nous, je suis, nous sommes le temple de Dieu. Et de quoi le remplissons-nous? De Netflix? De chants du monde? De rébellion? De quoi est-ce que je remplis le temple de Dieu, au fait? Mes frères et sœurs, je pense que c'est déjà la première des questions que vous devez vous poser. De quoi remplis-tu le temple que tu es à la gloire de Dieu? Et c'est bien ce deuxième point que je voudrais vous apporter. Est-ce que nous manifestons notre identité en Christ dans la vie de tous les jours? Est-ce que tous les jours, je manifeste mon identité en Christ? Est-ce que je suis là où je suis, jour après jour, que je sois à la maison, au travail, dans la rue, Christ? Est-ce que je manifeste Christ? Dans Matthieu 5,14, une autre parole que vous pouvez proclamer sur votre vie, « Je suis la lumière du monde ». Mais nous sommes quoi? Je suis la lumière du monde. Mais je suis quoi? Un chrétien plein phare qui en fout partout, qui éblouit tout le monde, qui parle de Dieu à outrance dans tous les sens, et qui, au lieu de faire du bien, fait du mal? Ou suis-je cette lumière qu'on a voulu mettre sous le boisseau parce que, oulala, oulala? Est-ce que vous êtes cette lumière? Alors, pour expliquer un peu cette lumière, je vais vous parler d'un homme qui se situe dans la Bible, bien sûr, qui a été choisi par Dieu. Cet homme avait tout pour réussir. Cet homme était né dans une famille aisée. Cet homme était grand. Cet homme avait de l'éloquence. Cet homme a été choisi par Dieu. Et cet homme a été placé comme roi sur Israël. Est-ce que vous savez de qui je parle? Saül. Le roi Saül était un homme grand. Il dépassait tout le monde d'une tête. Il était beau. Il venait d'une famille aisée. Et Dieu va même lui donner un nouveau cœur. Il va le placer comme roi sur tout Israël. Mais regardez comment Saül va remplir son temple. Comment Saül n'a pas brillé par ses actions. On parle de la lumière du monde. Et j'aimerais vous apporter cet homme choisi par Dieu, au moins par Dieu, qu'il a établi Dieu et qui va briller de ses mauvaises actions. Pourtant, il avait tout cet homme. Il avait tout. Vous vous rendez compte que Dieu lui a même donné un nouveau cœur. Dans 1 Samuel 13, de 11 à 12, Saül va briller par la peur de ce que pensent les autres. Il est roi. Et pourtant, la peur du peuple va lui faire faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire et va créer en lui de l'impatience. Et donc, ils sont en guerre contre Gilgath et Samuel va tarder pour venir faire le sacrifice. Et ne le voyant pas arriver, et étant pressé par le peuple, par son armée, il va faire lui-même le sacrifice. Car le fait est qu'il ne soit pas rempli que Dieu, et pourtant Dieu va lui dire « Je suis avec toi ». Mais il va plus avoir des yeux rivés au sol que des yeux rivés sur Dieu. Et le fait est qu'il va s'attarder à regarder et à subir cette pression parce qu'il n'est pas en Christ, il n'est pas en Dieu. Donc son identité n'est plus accrochée à Dieu, mais elle est bien accrochée au monde. Il va se laisser aller à l'impatience de l'arrivée du prophète pour faire le sacrifice. Ça va lui coûter cher. Dans 1 Samuel 15, verset 9, donc là c'est contre la guerre contre Amalek. Donc 1 Samuel 15, verset 9, donc là, Saül il part en guerre contre Amalek et il a eu un ordre clair de Dieu. Tu passes tout par interdit. Les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, tout. Et que va-t-il faire? Bon, le peuple dit qu'il y a des bons animaux, donc on va tuer tous les chétifs, et puis les bons, on va les garder. Et quand Samuel va arriver, il va dire, c'est quoi ce bruit d'animaux là que j'entends? Et vous rendez compte que Saül va essayer de se défausser. Il va dire, oui, mais tu comprends, on veut les donner à l'Éternel. Parce que le peuple a dit que, donc on va le donner à l'Éternel. Vous vous souvenez de cette parole? L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices? La désobéissance face à Amalek. Saül va manifester dans sa vie, dans son identité, la désobéissance. Mais la désobéissance va faire que Dieu va le rejeter. Et après, alors là, c'est peu à peu, c'est on chute, on chute, on chute. Et je dirais, dans 1 Samuel 18, de 7 à 8, 1 Samuel 18, de 7 à 8. Saül a tué 1000 hommes, David 10 000. La jalousie. Samuel a tué 1000 hommes, mais David 10 000. Et la jalousie va rentrer dans son cœur. C'est terrible. Mais de la jalousie, ça va amener au meurtre. Quand le prophète Achimélec, dans 1 Samuel 21, chapitre 22, Achimélec, le principal sacrificateur, voilà, qui va aider David, parce qu'il sait qu'il est le roi et qu'il doit le faire. Achimélec va le payer de sa vie et toute sa famille. Parce que le roi Saül va se mettre en colère, il va tous les tuer. On est passé de l'impatience à la désobéissance. De la désobéissance, on est passé à la jalousie. De la jalousie, on était passé au meurtre. De quoi avait-il rempli son cœur? De quoi avait-il rempli son temple? Saül était un homme guidé par la chair. Il n'était pas ancré en Dieu. Et vous avez vraiment ce parallèle avec le roi David, qui lui va être ancré en Dieu. Mais ce n'est pas le sujet de mon message. Ou tout du moins du message que Dieu a mis sur mon cœur. Mais dans Matthieu 5, 13, « Je suis le sel de la terre. » Matthieu 5, 13, « Je suis le sel de la terre, mes frères et sœurs. » Comment sommes-nous un plat bien dosé? Est-ce que nous ne sommes pas trop salés ou pas assez salés? Je Je me méfie toujours quand je vais voir mes frères antillais, parce qu'ils aiment bien des plats piquants. Et je me souviens d'une anecdote où c'était pas moi, c'était un de mes frères qui avait été à un repas et ça s'était super bien passé. Donc du coup, il s'est pas douté que la salade, elle était, comment dirais-je, explosive. Où il en pleurait. Est-ce que nous, mes frères et sœurs, nous faisons pas pleurer nos frères et sœurs par notre trop de sel ou du pas assez de sel? Sommes-nous bien dosés dans notre vie? Sommes-nous bien réglés dans notre vie d'agir comme Dieu voudrait qu'on agisse? Et donc finalement, agir comme Jésus lui-même agirait. Pas assez ou trop? Ou des chrétiens sans saveur, des chrétiens qui ne font pas envie, fades. C'est triste à dire, mais il y en a. Hein. Vous avez déjà goûté du pain sans sel? Je sais qu'une fois, nous sommes arrivés à la maison, c'était trompé, on avait acheté du pain sans sel. Ben, c'est pas bon. Pourtant, le sel, c'est quoi? C'est quelques petits grains dans une grande quantité. Mais le sel est un révélateur de goût. Et ce sel que Dieu nous appelle à être, nous devons être des révélateurs de Jésus. Nous devons être ces révélateurs, d'être ces gens qui ont de la saveur et qui donnent envie. Et quand c'est bon et bien dosé, bon, on en reprend parce que c'est bon. Et quand il n'y a pas assez ou qu'il y en a trop, on dira, non merci, c'est gentil. Sans façon. Non, non, non. Ça suffira. On restera poli. Mais n'y reviens pas. Et en parlant de sans saveur, je voudrais vous raconter une expérience qui m'a été pour moi extrêmement étonnante à mon travail. Donc ça ne concerne aucun de l'assistance. De toute façon, en général, je fais attention de ne prendre personne de l'assistance, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Je suis au travail et donc je suis manager dans une centrale d'achat. Donc tous les jours, je donne le matériel aux ouvriers et toute la journée, je suis avec eux dans l'entrepôt pour régler les différents problèmes, s'ils ont un problème de machine, de matériel, de PDA, d'imprimante, etc. Donc je suis tout le temps avec eux. Voilà. Et un jour, un de mes collègues vient me voir, enfin mes collègues viennent me voir, parce que nous sommes quatre chefs d'équipe, et ils me disent, ah, on a été au mariage d'un tel, il est comme toi. Comme quoi? Oui, tu sais, ton truc, ta secte, là, ton machin. De quoi tu me parles? Oui, il s'est marié, c'est un truc comme toi, à l'église. Ah bon? Cette personne, ça faisait plus de 8 ans que je travaillais avec elle. 8 ans. J'ai eu le temps de la voir quand même, hein. Je n'ai jamais vu Jésus transparaître. Cette personne, en plus, est devenue déléguée, l'un des délégués du personnel, et utilise ses délégations pour rentrer plus tôt à la maison. Normalement, les délégations, elles sont utiles que pour prendre du temps pour les ouvriers, etc. Mais eux, ils les utilisent entre autres pour rentrer plus tôt, parce que faut chercher les enfants à l'école ou que sais-je. Où est Jésus? Dans sa façon d'agir, dans sa façon de travailler. Est-ce qu'il transpire Jésus? La Bible nous parle aussi du témoignage silencieux. Moi, je sais que plus d'un m'a dit, mais toi, je te donnerai ma carte bancaire sans aucun problème, Vincent. J'ai confiance. Le directeur m'a demandé de faire des choses qui sont du niveau d'un cadre, parce qu'il m'a dit, j'ai confiance en toi. Et ce quelque chose, c'est carrément les payes des ouvriers. Mes frères et sœurs, si nous ne manifestons pas notre vie tous les jours, je n'ai pas vu Jésus pendant 8 ans dans ce frère. Sommes-nous des menteurs? Nous proclamons que nous sommes enfants de Dieu et tout le reste du temps, nous faisons autre chose. Ça a été dur pour moi. J'ai pu discuter avec lui et nous avons pu commencer des réunions de prière. Et j'ai pu, pendant une période, avoir eu la grâce même de faire des réunions de prière et de fédérer des frères et sœurs pour prier dans le sein de l'entreprise, après le travail, pas pendant. Galates 2.20 nous dit quoi? Galates 2.20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Mes frères et sœurs, prenez le temps de le lire. Je parle bien des gens qui ont donné leur cœur à Jésus, on est bien d'accord. Donc Galates 2.20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». Où était Christ? Est-ce que je manifeste Christ tous les jours dans ma vie? Tellement le moi centré sur moi, nous l'entendons, je l'ai entendu combien de fois dans les prières. En général, ce sont les premières prières que les enfants font. Merci Jésus, donne-moi une petite voiture, et puis ci, et puis ça, centré sur moi. Mais c'est normal. C'est aux parents d'apprendre à élever les enfants justement à se tourner vers Dieu et de le remercier. Remercier Dieu d'avoir une maman, un papa. De remercier Dieu parce que j'ai ma chambre avec plein de jouets. Comme nous, nous pouvons remercier et que je continue et encore, et c'est vraiment une joie immense de dire merci mon Dieu de la femme que tu m'as donnée, des enfants que tu m'as donnés, de quand j'entends la pluie, et que je suis à l'abri, bien au chaud, de remercier Dieu quand je suis dans ma voiture et que ma famille elle est bien au chaud dans une maison et que j'ai un pare-brise qui m'empêche d'avoir de l'eau sur la figure, de remercier Dieu d'avoir une entreprise et qui fait que je peux ramener de quoi bénir l'église et bénir ma famille. Je ne manque de rien. Est-ce que nous avons tout réellement donné à Christ, mes frères et sœurs? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Parce que plus j'avance, plus je me rends compte que j'ai encore des choses personnellement. Donc je ne ferai pas la paille et la poutre, je vais commencer par ma poutre. Est-ce que nous ne gardons pas des petites choses par crainte, mes frères et sœurs? Est-ce que tu ne gardes pas des choses par crainte? De quoi? De manquer? Du coup, tu as les poches cousues? D'abord moi et après on verra? Oui, la parole de Dieu dit qu'il me bénira, mais d'abord je vais payer mes trucs et machin et après on verra. Et pourtant, des prémices. De souffrir, parce qu'on va dire des choses qui sont intimes et qui risquent de... On a peur que l'autre nous juge? De se dévoiler? Dévoiler les choses qui sont pas très, qui glorifient pas trop notre vie. Ce que j'ai eu à cœur de faire pour vous depuis que je prêche, de vous dévoiler des choses que j'ai honte dans ma vie, mais que Dieu a agi. Parce que si je vous disais que je réussissais tout, ben moi je sais que quand j'étais auditeur, ça m'accablait encore plus. Mais de savoir que même celui qui apporte la parole de Dieu a chuté, bah moi ça me donnait du courage de dire s'il a chuté mais qu'il a réussi, bah ça veut dire que moi aussi je peux réussir. Soyons honnêtes, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Je ne suis pas encore arrivé. Tout lui donner nos enfants, nos époux, nos épouses, notre travail. Rien ne peut tout lui donner, Tout lui appartient, mes frères et sœurs. Au moment que nous sommes passés par les eaux du baptême, nous lui avons tout donné. Mais combien de fois ceci est resté que théorie dans notre tête? Entre là et le cœur, c'est long des fois. Et pourtant Dieu est patient. Il use de patience envers nous. Alors, c'est bien beau là, je vous ai un peu plombé l'ambiance. Hein, va pas? Gentil pasteur. Comment vivre notre identité? Ce sera mon troisième point. Comment alors dans ce cas-là je peux vivre mon identité? Comment je fais? Alors moi j'ai énuméré des choses toutes simples. Déjà, tout d'abord, il faut la connaître. La connaître dans la parole de Dieu. Parce que je vous en ai donné quelques-uns. Mais je peux vous en dire qu'il y en a, j'aurais pu vous sortir 3 pages. Où la parole de Dieu dit qui tu es. 3 pages. Je vous en ai donné quelques-uns. C'est déjà de tout d'abord de connaître son identité dans la parole qui est en Jésus. Et elle commence par quoi? La croix. Elle commence par la croix. Si tu n'es pas passé ou tu as oublié ce passage-là, reviens à la croix. Tu ne seras pas jugé, mais reviens à la croix. Être honnête envers nous-mêmes. Combien de fois on se ment nous-mêmes, mes frères et sœurs? Combien de fois on se ment? Oui, oh, non. D'être honnête, dire, bah, Seigneur. Et reconnaître. Et je crois que ça, c'est la partie la plus difficile que nous avons. C'est de reconnaître que nous avons besoin d'aide. De reconnaître que de toute façon, je suis incapable, je vous le dis, je suis incapable de faire ce que dit la parole. Mais par contre, si je vais à la croix, en Jésus-Christ, j'en deviens capable. Mais par mes propres forces, je ne vais pas vous mentir, j'en suis incapable. Une fois qu'on a pris conscience qu'on a besoin d'aide et d'un sauveur, ben, il faut l'accepter. Il faut accepter cette aide. Il faut accepter. Mais il y a des fois, c'est difficile d'accepter cette identité en Christ. On va faire un exercice. Imaginez que je vous parle, que Dieu veut t'adopter, etc., etc., gloire à Dieu, mais tu es une personne qui n'a ni père ni mère. Ça veut dire quoi? Des fois, c'est dur d'accepter l'identité en Christ, d'accepter son amour, qu'on n'a jamais reçu d'amour, d'accepter le fait est qu'on te tienne la main quand on te l'a toujours rejeté, quand on t'a toujours jugé, quand on t'a toujours dénigré. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais pourtant, c'est tellement réel. Et d'obéir en passant par les eaux du baptême. Mes frères et sœurs, souvent je reviens, pour ma part, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Et pas plus tard qu'avant-hier, je proclamais encore dans ma voiture que je ne m'appartiens plus, que j'appartiens à Jésus. Parce que ce jour-là, j'ai donné ma vie. Je ne m'appartiens plus, mon âme bénit l'Éternel, tu appartiens à Dieu. Et toutes choses passées ont été effacées. Et toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. En fait, c'est notre chair qu'il faut jour après jour, remettre à la croix et se revêtir de Christ. Ah, ah oui. Les eaux du baptême et la croix, c'est quoi? Ce n'est que la porte d'entrée. Beaucoup de frères et sœurs pensent que, bah ça y est, j'ai accepté Jésus, ça y est, je suis passé par les eaux du baptême, donc ça y est, c'est bon, j'ai rempli toutes mes cases. Non, tu as passé juste la porte. Maintenant, il y a tous les escaliers à monter pour arriver dans la présence de Dieu. Et les marches, elles sont des fois grandes, des fois toutes petites, des fois elles sont très longues, très courtes. Elles sont adaptées à chacun en fonction de qui nous sommes et comment nous allons réagir, qui correspond au verset que aucune épreuve n'est au-delà de nos forces, mais que dans l'épreuve, Dieu prépare une porte de sortie. Tout ce que nous vivons les uns comme les autres sont pour nous faire grandir et nous accrocher à Dieu. Ceci fait partie de notre éducation, ceci fait partie de notre identité. Eh oui, eh oui. Une nouvelle identité, elle passe par se dépouiller. Parce qu'on ne peut pas juxtaposer. Dieu est un Dieu jaloux. Et ça passe par une nouvelle identité, et ça veut dire qu'il faut se dépouiller de l'ancienne. Ah! Il faut se dépouiller de l'ancienne. Il faut se dépouiller et revêtir le caractère de Christ. Pas le caractère de notre pasteur qui est en marche, mais revêtir Christ. Revêtir notre Sauveur. Revêtir celui qui est venu et qui est mort pour toi et pour chacun de nous. Mais c'est un travail de tous les jours. Vous savez, personnellement, nous avons des réunions de prière avec mon épouse. Et plus on cherche la présence de Dieu, je peux vous dire une chose, c'est que c'est des temps qui sont très forts. Et souvent, on se retrouve à genoux, voire même des fois, pour moi, à plat ventre devant Dieu, à lui demander pardon et de l'adorer. Parce que plus nous avançons dans sa présence, plus je me rends compte que je ne peux rien. Et ce n'est que grâce, par sa grâce, sur grâce. Je ne mérite rien, mais dans son amour infini, il est mort pour chacun de nous. Et plus on va chercher le royaume de Dieu, dont le verset, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné. Mes frères et sœurs, le monde court sur le tout. Le monde nous pousse sur le tout. Mais Dieu nous dit, cherchez d'abord. Cherche d'abord Dieu. Et tes problèmes d'argent, de travail, de santé, de voisinage, de transport. Dieu le sait et Dieu veut y répondre. Tu te sens seul, tu as envie d'un compagnon ou juste d'une amie ou d'un ami. Mais Dieu sait. Mais c'est dans sa présence. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Nous sommes dans un monde qui nous tire à tout l'inverse. Moi, je me souviens d'une expérience. J'avais été faire une sortie de groupe de jeunes. Alors, le problème, c'est que les responsables du groupe de jeunes, c'était mes parents. Donc, autant dire que j'étais rejeté. Et on avait fait une sortie. Peu importe, on s'en fiche. Et c'était donc un rassemblement de jeunes. Et les jeunes essayaient toujours de m'abandonner dans la foule. C'est sympa, hein, entre frères et sœurs. Dégage, on ne veut pas de toi. Et ma mère, elle a vu cela. Et elle a prié. Et Dieu est bon, parce qu'il a répondu à sa prière. Et j'ai eu des amis. Mais j'ai eu pas que des amis. C'était un festival de musique chrétienne. Entre autres, il y avait Petra, enfin voilà, des groupes assez sympas. Et mes amis, que je me suis fait pendant cette période, c'était ou les ouvreurs de portes, donc c'est-à-dire que je rentrais dans la salle avant tout le monde, ou ceux qui s'occupaient des cuisines, donc je mangeais avant tout le monde, pendant que tout le monde était comme ça sur les vitres, moi je mangeais avec les autres, tranquille. Dieu est bon. Dieu sait ce dont vous avez besoin et Dieu veut y répondre. Mais cela passe par le fait de proclamer notre identité et de quoi ? De chercher notre identité. Et donc notre identité est en qui ? En Christ. Et Christ est en Dieu. Et tout ça à travers la croix. Des temps où on réalise que nous ne pouvons rien sans lui. Vous savez, quand on passe des temps comme ça, où on prie et qu'on réalise que je ne peux rien sans Dieu, c'est pas que je me sens triste de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, c'est que je me rends compte que lui peut tout. Et que là, ça devient intéressant. Qui peut agir dans mes pensées, dans mon cœur, dans mes sentiments? Et qui veut agir dans ce bâtiment, ce qui est qu'une coquille vide, elle ne sert que pour l'Église. Mais il veut faire de grandes choses, parce qu'il veut que vous soyez bien. Il veut que ce soit un lieu qui vous plaise, un lieu où vous pouviez venir le cœur reconnaissant de louer Dieu, tout ce qu'il fait. Dans Jean 1, 19, je voudrais justement, en parlant d'identité, dans Jean 1, 19 à 23, je voudrais parler d'un homme qui, lui, connaissait très très bien son identité. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste connaissait, à l'inverse de Saül, qui la connaissait très mal et qui s'est laissé remplir parce qu'il ne faut pas, Jean-Baptiste, lui, la connaissait extrêmement bien, son identité. Et on va venir le voir. Et on va lui poser la question. Es-tu Élie? Es-tu le Messie? Mais qui es-tu pour qu'on dise « Je suis la voix qui crie dans le désert. » Je suis la voix qui crie dans le désert. Je ne suis pas le Messie. Pourtant, il y avait la foule était avec lui. Le peuple était avec lui. Les gens, limite, étaient prêts à l'adorer. Et il leur dira, « Oh, c'est pas moi. C'est pas moi que vous venez d'adorer. » Non, non, non. Parce qu'il va très bien le dire dans Jean 1, 38. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Jean-Baptiste, la foule, les villes venaient à lui pour se faire baptiser, pour fuir la colère de Dieu. Jean-Baptiste avait des disciples. Ça va ? D'accord ? Il est quand même dans une position qui est quand même, j'irais au jour d'aujourd'hui, sympathique. Et pourtant, regardez ce qu'il va dire. Quand Jésus va passer, il va dire, « Voici l'agneau de Dieu. » Suivez-le. Ses disciples vont le quitter. La foule vont le quitter. Mais il savait qui il était. Il savait quel était son rôle sur terre. C'était de déblayer le chemin pour Jésus. Il n'a pas fait cas de sa vie. Il n'a pas fait cas de qui il était. Il savait ce qu'il avait à faire. Et il l'a fait jusqu'à dire à ses disciples, « C'est lui que vous devez suivre. Quittez-moi. » Es-tu prêt au jour d'aujourd'hui à quitter ton confort, ta situation pour Christ? Moi, pour moi, c'est fort. C'est super fort. Je ne sais pas combien de milliers de gens, des grands sacrificateurs et autres qui venaient pour se faire baptiser par lui. Il avait des disciples et il va dire, c'est lui qu'il faut suivre. Laissez-moi, c'est lui qu'il faut suivre. Vous vous rendez compte de l'aplomb qu'il avait en Christ? Parce qu'il savait qui il était, ce pourquoi il était là sur terre. La question se pose, sais-tu pourquoi tu es sur terre? Grands et petits, hein? Oui, pour frapper des mains, pour le louer. Alléluia! Sais-tu qu'est-ce que tu fais sur terre pour sa gloire? Connais-tu ton identité? Eh oui, voici l'agneau du Dieu. Un cœur entier pour Dieu. Un cœur entier pour Dieu. As-tu un cœur entier pour Dieu? Moi, je vais vous le dire, j'ai pas besoin de. Moi, je sais que j'ai encore du ménage à faire. Je me rends compte des résistances dans ma vie à sa présence. J'ai encore à grandir, j'ai encore à persévérer, mais Dieu fait tout en son temps parfait. Et j'ai confiance en lui. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, 19, dans 1 Corinthiens 6, de 19 à 20, 1 Corinthiens 6, 19 à 20, dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, Je recommence. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Mes frères et sœurs, glorifions donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce que nous avons pris conscience de cela? Mes frères et sœurs, quand je vous dis que souvent je reviens au baptême, pour ma part, je me remémore que je ne m'appartiens pas. Je me remémore que je dois ressembler à mon Sauveur. Je ne dois pas laisser mes pensées dicter ma pensée, mais je dois chercher les pensées de Dieu pour agir. On pourrait demander à Michel comment je me comporte dans l'entreprise. On se côtoie tous les jours. C'est tous les jours. Et on ne sombre pas dès qu'il y a une difficulté, parce que nous savons qui nous sommes. Nous savons sur qui nous pouvons nous appuyer. Nous savons où nous allons. Et nous savons que le monde ne peut rien contre nous parce que nous savons que je suis en Christ et que rien ne peut me retirer de sa main et que les temps sont dans sa main. Et pourtant, combien de fois la peur me gagne de me taire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez Dieu ! Oh ! Ce sont des paroles de proclamation que vous pouvez faire dans votre chambre, dans votre tête, dans votre voiture, peu importe les lieux. Mais de proclamer la vérité, de dire oh, qu'est-ce qui m'arrive là? Pourquoi je réagis comme ça? Non, stop. J'appartiens à Dieu. Je n'ai pas à réagir comme ça. Je n'ai pas à avoir des pensées comme ça. Philippiens 3, de 7 à 8, c'est Paul qui dira: mais ces choses qui m'était un gain. Paul, un homme qui avait été instruit par Gamaliel et qui était d'une famille aisée, qui était aussi dans une position d'autorité spirituelle à l'époque, va dire: mais ces choses qui étaient pour moi un gain, la tenue, la reconnaissance d'avoir été, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Il dira même: je les considère comme de la boue. Il rejetait toute son identité parce qu'il voulait revêtir Christ. Christ dans sa globalité. Christ dans sa façon d'agir. Christ dans sa façon de regarder. Christ dans sa façon d'être impacté par ces brebis qui se perdent, lent à la colère, riche en bonté. Oh, j'ai du chemin à faire, mes frères et sœurs, j'en ai. Revêtir Christ. Et Paul va dire: je considère comme de la boue. On aura l'exemple quand Jésus dira à un homme riche: vends tout, donne-le aux pauvres et suis-moi. Combien de fois nos positions, nos possessions sont des liens. Alors, je ne vous ai pas demandé de tout vendre, je ne vous ai pas demandé de venir tous vivre ici à l'église, d'accord? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais posez-vous devant Dieu de dire: tiens, qu'est-ce qui est un frein dans ma vie? Est-ce que je suis capable de le suivre, peu importe les circonstances? Prendre conscience de notre identité et de le chercher. Mes frères et sœurs, la chercher dans la parole de Dieu. Et après, c'est de s'en imprégner. Et une fois qu'on est en imprégné, c'est de la proclamer. Et une fois qu'on la proclame, c'est de la vivre tous les jours. Dans 1 Timothée 2, de 1 à 4. Et là, je voudrais... C'est un passage que je relate beaucoup à beaucoup d'endroits. C'est une des parties des autorités. C'est dans 1 Timothée 2, de 1 à 4, c'est « Bénissez vos autorités ». Le monde nous pousse à critiquer premièrement notre président, la police, les règles, les pasteurs, les parents, les patrons, les chefs, mes frères et sœurs, tous ceux qui sont en autorité au-dessus de vous, la Bible dit vous devez les bénir. Nous devons bénir nos autorités. Nous n'avons pas le droit de la critiquer. Tu n'es pas d'accord avec elle, si tu as l'occasion, demande un entretien et discute avec lui. Sois un chrétien jusqu'au bout. Voilà, vous me demandez de faire ça, mais je ne suis pas d'accord compte tenu de patati patala, parce que voilà, vous avez des arguments compte tenu de votre travail, vous connaissez les circonstances, etc. Mais quand vous descendez, vous soutenez votre patron. Vous ne vous mettez pas avec vos collègues à les critiquer. Je l'ai combien de fois à mon travail ? De critiquer le président ? Je vais vous dire, moi je le bénis parce que je n'aimerais pas être à sa place. C'est tellement facile. Vous savez, regardez, je vous prends un exemple tout simple. Regardez tous ces gens qui sont devant leurs écrans et qui critiquent les footballeurs. Mais fais une passe, fais ci, fais ça ! Une fois, j'ai dit, vas-y sur le terrain. Tu n'es même pas capable de traverser le terrain, que tu serais déjà essoufflé. Oh, qui tu es ? Et il y a eu cette parole la dernière fois. Qui es-tu pour critiquer mon serviteur ou ma servante ? Mes frères et sœurs, vous devez bénir vos autorités. Ceux qui, finalement, vous bénissent parce qu'elles vous donnent un salaire. Nous pouvons, effectivement, des fois, pas être d'accord, mais ne pas être d'accord ne veut pas dire critiquer. On peut discuter, mais ne pas critiquer. Le tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha entre collègues dans les bureaux, hein ? À droite, à gauche, à la machine à café. Eh oui ! Là, je vous parle de mon entreprise, hein ? Si vous vous sentez visé, eh ben, c'est que Dieu vous parle. Mais c'est ce que je vis au travail. On va critiquer le chef, on va critiquer, et puis moi, si j'y étais, je ferais comme ci, je ferais comme ça. Oui, mais tu n'y es pas. Tu n'y es pas, tu ne sais pas pourquoi. Bénissez vos autorités. Ça fait partie de votre identité, mes frères et sœurs. Donc, quand vous commencez à avoir des paroles médisantes, fermez votre bouche, retenez-les et rendez gloire à Dieu. Je vais vous donner un petit témoignage vite fait. J'étais un enfant, comme tout enfant, où ma bouche était un dévidoir à ordures. Dans le sens que je sortais des gros mots plus vite que Lucky Luke dégainait son pistolet. Et quand j'ai pris conscience que c'était pas bien, le pli était pris. Jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, faut que tu m'aides. Je sais que par rapport à toi, je ne dois pas parler comme ça, mais c'était dur. J'avais essayé par mes propres forces, ça avait fonctionné un temps, et j'avais rechuté. J'y arrivais, je chutais, j'y arrivais, je chutais. Non. Et le jour où j'ai dit, Seigneur, viens m'aider, je veux plus de ces mots. Vous savez ce qui s'est passé ? C'est que Dieu m'a envoyé un ange et qu'il mettait sa main devant ma bouche. Ça me laissait le temps de réfléchir de ce qu'allait sortir. Si je voulais qu'il sorte, il pouvait sortir. Mais si je me mettais, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, merci Seigneur. Et il m'a libéré de cela. Il m'a libéré de cela. Et je pense qu'il veut nous libérer de tant de choses, mes frères et sœurs. Dans Éphésiens 4, au verset 29, justement, voyez, qui ne sortent de votre bouche de paroles malaisantes. Il ne doit pas sortir de ta bouche, mon frère, ma sœur, des mauvaises paroles. Ou des paroles donc malaisantes veut dire aussi qui peut mettre mal à l'aise ton frère, ou tu vas le juger, le critiquer. Tu n'as pas le droit. Dieu te demande de ne pas le faire. Si tu n'y arrives pas, Dieu peut t'aider. Amen. Alors vous doutez bien que j'aurais pu en sortir des tonnes et des tonnes, et le but du jeu, ce n'est pas de vous fatiguer, mais c'est de vous faire prendre conscience. De vous faire prendre conscience. Alors je vais conclure. Bah, déjà, il faudrait, je dirais qu'il nous faut connaître notre identité pour pouvoir résister. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas résister dans les jours mauvais. On a la parabole de la maison sur le sable et la maison sur le roc. Es-tu construit sur le sable, sur des fondements légers? Je pense qu'il est marqué dans la parole que... Non, il est dit, comme Jésus pourra répondre à l'accusateur, il est écrit, je suis une créature merveilleuse, j'ai été racheté, je fais partie de la famille de Dieu, je suis co-héritier, j'ai été sanctifié. Amen. Et en plus, les temps sont difficiles, et j'ai une mauvaise nouvelle, mes frères et sœurs, ce n'est pas fini. Il y a une parabole, une vision qui a été donnée à un frère que je voudrais vous partager. Le temple de Dieu, c'est nous, on est d'accord? Ça va? Je n'ai pas dit de bêtises jusqu'ici? Donc nous sommes les pierres vivantes. Amen, ça va jusque-là? C'est bon? Il y a des petites pierres, des plus grandes pierres, des plus belles, voilà, bon. Et déjà avec le Covid, il y a des pierres qui sont tombées. Regardez les églises, beaucoup de frères et sœurs ne sont pas revenus. Il y a des frères qui ne sont pas revenus. Et les temps qui vont venir encore ne sont pas bons. Si je vous apporte ce message, c'est parce que le Saint-Esprit m'avait demandé de reculer pour que je puisse avoir cette vision, que les temps qui vont arriver ne sont pas encore bons. Mais si Dieu nous la donne, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous avertir. Mes frères et sœurs, les temps qui viennent ne sont pas bons. Mais si nous ne sommes pas ancrés en Jésus, nous risquons de chuter et d'autres pierres vont tomber. Et Dieu ne veut pas. Dieu nous aime. Mais cela ne dépend pas de lui, ça dépend de nous. Est-ce que quand l'épreuve va arriver, est-ce que nous allons rester ancrés en Jésus? Ou à la première occasion, on va ranger la Bible dans le placard et on va regarder par la fenêtre ce qui se passe? Ou est-ce qu'on va fermer les volets et on va aller dans la chambre et on va s'agenouiller et prier, chercher Dieu, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et de proclamer sa parole, je ne crains rien parce que tu as la sécurité dans ma demeure. Je ne crains rien parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Dieu nous avertit, c'est parce qu'il nous aime, mes frères et sœurs. Ce message que je vous ai apporté, ce n'est que l'une des clés pour rester accroché en Jésus. Ce n'est pas la clé, c'est l'une des clés. Il reste la prière, la louange. En esprit, en vérité, dira la parole. Vous savez, c'est pas amusant d'apporter des messages comme ça. Dans le sens où Dieu veut réveiller son peuple et combien sont hermétiques à sa parole. Combien vont résister, vont endurcir leur cœur. Combien vont devenir ce front d'airain que nous décrions quand nous lisons l'Ancien Testament du peuple juif, de ces hommes, de ces femmes qui criaient et qui rouspétaient contre Dieu. Si C'est une décision de vivre en conformité, mes frères et sœurs, que je voudrais vous apporter ce matin. Vous encourager à vivre une vie en conformité. Que chacun doit prendre et s'y tenir dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas juste là le dimanche, c'est juste pas juste d'être beau. Nous allons tous chuter, mais nous avons un avocat auprès du Père, dire « Seigneur, je te demande pardon ». Et hop, on remonte sur la brèche. On remonte sur la brèche. Ouais. Et par rapport à cela, de remonter sur la brèche. Vous imaginez même pas à quel point Dieu vous aime. Mais combien, mes frères et sœurs, vous êtes fragiles. On parlait du temple. De quoi le remplissons-nous? Est-ce que la semaine, c'est des musiques du monde? Et on ne va pas faire l'exercice ici, mais je voudrais que vous fassiez, je vous propose, après vous faites ce que vous voulez. Prenez un moment dans votre maison ou dans votre voiture et fermez les yeux. Et regarde ce qui va venir dans tes pensées. Moi, quand je regarde un film, au bout de 2-3 jours, quand je ferme les yeux, je vois encore le film. Si j'écoute des musiques du monde, dans ma tête résonnent encore ces musiques du monde. Parce que mon temple s'est rempli. Le temple de Dieu s'est rempli de choses qui ne glorifient pas mon Dieu. Faites cet exercice. Fermez vos yeux. Écoutez votre cœur. Et voyez ce qu'il y est. Si c'est Jésus qui est la première place que nous proclamons le dimanche, ou autre chose. Moi, je vous le dis en toute vérité, toute transparence. C'est pour ça que je regarde de moins en moins les télés. Parce que je veux revêtir, comme disait Paul, la nature de Christ. Certains, même, ça les amuse. J'ai eu des frères qui sont venus, ils disent, mais il n'y a plus que le support de la télé, il n'y a plus de télé dans mon salon. C'est mon fils qui a récupéré sa télé pour le mettre dans sa chambre. Ben, ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème. Je voudrais vous laisser, en même temps que cette pensée que je veux vous laisser avoir, je voudrais vous laisser une lecture. Je vous encourage de lire Matthieu. Lisez-le cette semaine. Enfin, je ne peux pas vous l'imposer. Donc je vous propose, lisez Matthieu 5, de 1 à 48. C'est tout le chapitre. Lisez-le, relisez-le et mettez-vous en face du miroir de Christ. Lisez-le en couple et relisez-le encore. Moi, il m'a fait beaucoup de bien, il m'a révélé des choses dans ma vie. C'est le serment sur la montagne de Jésus, juste après que Jean-Baptiste sera emprisonné, qui va se mettre à prêcher. C'est limite le premier prêche de Jésus. Alors le début, il est sympathique, mais le reste, ça impacte. Mes frères et sœurs, je ne vous ai pas dit cela pour vous attrister. Je vous ai dit ceci pour que vous preniez conscience que Dieu vous a donné une identité, que Dieu vous a donné des moyens, que Dieu est avec vous. Et qui veut vous emmener dans la gloire de sa présence. Il veut vous emmener dans la victoire. Mais prenez conscience de ces avertissements. De ne pas s'endormir. Je veux vraiment vous bénir. Et avant cela, j'ai demandé de garder un chant que nous venons de chanter. S'il te plaît, Jacques Hubert ou... J'ai confiance en mon Seigneur et quand ils ont mis la louange, je voyais ça, je me mettais à rire. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. C'est ce que nous sommes en train de vivre, mes frères et sœurs. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. Il tient ta main si tu es avec lui. À travers l'orage grondant, est-ce qu'on n'est pas en train de passer dans un orage actuellement? Est-ce que la France n'est pas en train de passer dans un orage? À travers un orage grondant, mon cœur étant, vous l'êtes? Ou c'est que des mots? Moi, par moment, je ne l'ai pas été. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas été. J'ai, oh, mais hey, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans ma vie qui n'est pas bon. Mon cœur est en paix, j'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Wow. Mes frères et sœurs, c'est ce que nous avons chanté ce matin. Et la deuxième partie, s'il te plaît, Nolan, c'est un ami fidèle. Le plus grand ami. Oh, wow. En toute assurance, vous appuyez sur quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous? Mes frères et sœurs, est-ce que nous connaissons vraiment Jésus? Est-ce que nous connaissons vraiment Jésus? Pour nous appuyer en toute assurance sur lui? Vous savez, les chrétiens n'ont jamais autant menti que quand ils ont loué Dieu. Les chrétiens n'ont jamais autant menti que quand ils louent Dieu. Parce qu'on proclame des choses que l'on ne vit pas. Et ce matin, je voudrais vous encourager à vivre ces paroles, à vivre la réalité de sa parole. De dire oui, oh là, attends, j'ai confiance en mon Dieu et je continue à le proclamer. Je sais sur qui je m'appuie parce que je connais mon Sauveur. Amen.